Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante, c'est l'heure de Time Sport, votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM. Au menu de cette émission ce jeudi soir, jeudi 15 septembre 2022, on parlera de quoi ? Du Paris Saint-Germain, pas si facile hier du côté d'Haïfa, qui a rencontré pour la deuxième journée de cette Champions League le Maccabi. Les pépites du football avec notre consultant Abdel, ça c'est au menu de l'émission. Et sans oublier aussi le club rennais, Rennes, l'Européen serein. On aura dans cette émission pour la seconde fois une grande personne que l'on aime bien sur l'antenne de Beurre FM. Parler, débattre aussi football avec un magnifique livre. Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Voilà, aux éditions Sciences Humaines. C'est de Monsieur Lionel Bélanger. On le rappelle, maître de conférence à la Sorbonne et aussi groupe HEC. Il intervient à l'École Polytechnique après avoir dirigé nombre d'entreprises et aussi dans le domaine de la communication. Mais pas que. Il a travaillé aussi dans le domaine du sport et plus précisément dans le football. Voilà, il est avec nous tout au long de cette émission. On vous promet des débats assez ingénieux et studieux. Voilà, alors restez bien à l'écoute, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On va parler aussi du Paris Saint-Germain. C'est le débat du jour. On vous donne le numéro du standard. C'est le 01 53 48 3000. Le PSG de la difficulté dès les matchs de poule dans cette Ligue des Champions. Rien de plus simple. À la réalisation ce soir, c'est Tariq. Vous l'appelez. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter l'ouvrage de Lionel Bélanger. Voilà, ils ont garé le bus devant le but et pourtant on a réussi à marquer. Et aussi un autre ouvrage aux éditions Solar, c'est la préparation mentale du sportif. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette émission en présentant toute l'équipe.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Voilà, il est assez aux aguets. C'est Chekib qui est avec nous. C'est le Ro ce soir. Comment ça va ?
Ça va très bien, comme d'habitude. Ravi d'être avec vous.
Oui, ben nous aussi. Abdel est avec nous ce soir. Comment ça va, Abdel ?
Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là, comme d'habitude.
Ben nous aussi. Vivien, on l'attend. Il est un petit peu en retard. Boula est avec nous ce soir. Bonsoir, Boula.
Ça va très bien.
Ça va bien, Boula ?
Ouais, ça va. À part Delors, il retourne en équipe d'Algérie, mais bon.
Ben c'est bien ça. Je pense que c'est on dit Delors. Ouais, il retourne en Algérie.
Je pense que.
Tariq aura un mot à dire peut-être sur ça.
C'est un mauvais choix.
Le mauvais choix ? Ouais. Oui ? Delors, pourquoi ?
Je sais pas, quand tu refuses l'équipe nationale pendant les qualifications de la Coupe du Monde et après tu reviens aux aguets, je pense qu'à un moment donné il y a un groupe,
c'est toi qui le dis. Lionel Bélanger, bonsoir.
Oui, bonsoir, très heureux de revenir effectivement puisque
il y a
deux ans on avait déjà partagé sur autour du livre.
Ah, pas assez vite.
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les coachs.
Ouais. On va en parler des coachs. C'est au menu de cette émission.
De l'influence des coachs.
Ouais.
Sur les équipes et tout ce qui va se passer cette année, ce qui a déjà commencé à se passer, puisqu'il y a une actualité. Tu rôles déjà perdre son poste.
C'est ça.
Alors qu'on est à la cinquième journée, sixième journée.
On a débattu dans cette émission.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. Le Paris Saint-Germain, hier, face au Maccabi, justement, 3-1, mais première mi-temps assez. On a vu un peu sur les réseaux sociaux hier assez catastrophique. Selon certains, le PSG, on s'attendait à un peu plus. C'est toujours cette histoire du mental. On en parlait en off avec le réalisateur, Tariq. C'est vrai qu'il y a toujours du mal, M. Bélanger. Ce PSG, que faut-il au Paris Saint-Germain de Galtier que vous connaissez si bien ?
Oui, je connais bien Christophe. Alors moi, je prends des risques, je me lance, les pronostics, c'est terrible, mais je pense que c'est l'année du PSG pour la Champions
League. Oui, selon vous. Et ça va faire plaisir à Tariq.
À mon avis, si c'est pas cette année,
ça sera jamais.
Je crains que ce soit difficile parce que après Mbappé, on ne sait pas ce qu'il va devenir.
Mais il aura Abdel ce soir.
Plus de 30 ans, Neymar, mystère.
Aussi.
Là, vraiment, c'est l'année, quoi. C'est l'année. Et Christophe, il le sait bien. Il le sait très, très bien.
Avec un coach français en plus.
Et avec un coach français.
Ouais.
J'en parlais à Christophe il y a pas très longtemps. C'est
alors
le premier coach qui a donné le titre de champion de France. Au Paris Saint-Germain, c'est Gérard Houllier, coach français.
Ah
c'est
vrai.
Lui qui a donné le titre de
champion. Dans votre livre, on le rappelle, le préface premier, est fait par Monsieur Houllier.
Le premier qui donnera le titre, ou c'est Galtier ou c'est personne.
Ouais. Alors, Chekib et Abdel.
Ouais, pour rebondir sur ce que dit notre invité, c'est vrai que le fait d'avoir intronisé un coach français, je trouve que c'est bien malgré le.
Il avait fait avec Laurent Blanc. Hein.
Non, mais oui, c'est ça. C'est malgré le fait que Emery et Tuchel soient passés par là et ont eu quand même ont démontré pas mal de belles choses. Je trouve que avec Laurent Blanc, c'était quand même une certaine apogée du PSG. Je me dis que pourquoi aller chercher des coachs étrangers alors que il y a des coachs aussi de qualité dans le championnat et des coachs français. Maintenant, pour revenir sur le match d'hier, c'est vrai que ça avait tout du match piège. Le PSG a été mis un petit peu en difficulté, un peu comme ça avait été le cas la semaine dernière en seconde période face à la Juventus. Mais voilà, le PSG a surtout montré, on va dire, pas une force de caractère, mais les qualités individuelles des joueurs ont fait la différence. Après, on peut se poser la question si, voilà, ça arrivait face à une équipe qui est peut-être supérieure à Haïfa, peut-être beaucoup plus solide, qui a plus la maîtrise du ballon, comment ça se serait passé. Mais il faut pas tout de suite être alarmé, être alarmant envers le PSG. Ça fait que deux journées. Après, moi, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est que quelqu'un comme Christophe Galtier a été habitué dans tous ses passages en club à jouer en 4-4-2. Le PSG a eu un système préférentiel en 4-3-3 et pour l'instant on joue en 3-4-1-2 et j'aimerais voir le PSG dans un autre système pour quand ils sont en difficulté, pour voir si ils ont la capacité d'annihiler un peu les offensives adverses. Mais voilà, il y avait rien d'inquiétant hier. Le PSG s'est réveillé en seconde période. Le terrain n'était pas non plus facile. C'est pas de la force de caractère, mais c'est de la logique en réalité sur la deuxième mi-temps. Il faut pas être très inquiet. En tout cas, moi, c'est pas le débat que je soulèverai tout de suite.
Ok, Abdel n'est pas inquiet. Voilà,
moi, pour ma part, je suis ravi de ce début de Ligue des Champions de Paris Saint-Germain, ouais, parce que c'est exactement ce que je voulais. En réalité, ils ont gagné, mais ça a été poussif pour les deux parties. Et pour moi, c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est que Paris Saint-Germain, elles mettent des 5-0 à tout le monde. Et après, quand ils arrivent au 8e, tout le monde les encense et tout. Et quand ils arrivent en 8e, ils se font péter, ils sortent. Et ceux qui étaient en train de les encenser, ils vont les démonter. Ça, c'est la première chose qui me faisait peur. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ce départ poussif va libérer un peu Christophe Galtier. Pourquoi? Parce que Christophe Galtier arrive, c'est un coach français, mais il arrive avec un palmarès, c'est un très grand entraîneur, mais son palmarès est inférieur à celui de ses joueurs. Et c'est très difficile en tant que leader, en tant que manager justement, de prendre une telle équipe. Et là, on le voit, il fait très peu de coaching. Ça veut dire que sur tous ses titulaires, personne ne bouge pratiquement. Un peu Hakimi, un peu Nuno Mendes et Vitinha. Or, le début poussif du Paris Saint-Germain va lui permettre de dire aux gars, vous voyez, il va falloir faire tourner, il faut donner une impulsion.
La Coupe du Monde, n'oublie pas.
Et il y a la Coupe du Monde, donc il lui faut juste termine. Il faut qu'il comprenne ça pour qu'il puisse faire le coaching. Parce que s'il peut pas faire le coaching et sortir ses stars après la Coupe du Monde et à la fin de saison, les blessures, les joueurs qui seront fatigués, il se fera démonter à la fin et ils perdront tout à la fin. Alors que s'il a, il fait le coaching, ils pourront tenir toute la saison. Et effectivement, ça pourrait être leur année. Donc je suis vraiment content et je pense que ça va servir le management de Christophe Galtier.
Pour compléter juste sur Galtier, je pense que c'est sa première fois en Ligue des Champions, donc il y a aussi un temps d'adaptation, un temps d'adaptabilité, lui.
Mais le PSG n'est pas un centre de formation.
Je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, on a essayé de prendre à chaque fois au PSG des mecs expérimentés qui ont gagné l'Europa League, qui ont été dominants dans leur championnat. Là, je pense qu'à un moment donné, c'est plus, en fait, c'est pas, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est pas le coach qui fait la différence. À un moment donné, les joueurs, ils sont forts. Si ils ont besoin de se galvaniser seuls, ils doivent savoir le faire s'ils ont envie d'aller remporter un titre. Lui, dans le management, je pense que dans la cohésion de groupe, c'est quelqu'un qui sait faire. Et je pense juste que il lui faut juste un tout petit temps d'adaptation, voir comment c'est avec des champions. Parce que en vrai, on sait que le PSG, on n'est pas fou. On les attend en février, mars. Et c'est pas là en poule, ils explosent tout. Donc tu peux te permettre d'avoir ce petit temps d'adaptation. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que voilà, il a pris la mesure des choses et que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, je l'espère.
Non, on va laisser. Alors,
tout ce que je sais, c'est que la gestion de Galtier, elle est à l'origine de sa, quand il était joueur à Marseille.
Ouais.
Il connaît très bien le football. Humainement, il connaît très bien les hommes.
Ah ouais.
Et il sait faire du côté déjà de faire ce qu'il fait avec Neymar. Déjà, regardez entre le problème qu'il y a entre Neymar et Mbappé, il arrive à gérer humainement ces deux gars qui sont très très durs à gérer au niveau égo. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il tire le maximum, surtout de Neymar cette année. Et il n'y a pas un entraîneur de plus qui arrive au Paris Saint-Germain qui arrive à gérer ce potentiel talent. Du départ de Galtier. Moi, pour moi, Galtier, ça reste quand même un coach qui connaît très bien le milieu du foot. et c'est quelqu'un qui a l'habitude des comportements. C'est, il l'a appris à l'OM, il l'a appris même en tant qu'entraîneur au niveau de la Ligue des Champions, parce que quand on dit qu'il connaît pas la Ligue, t'inquiète pas, s'il y a un mec qui connaît bien la Ligue des Champions, c'est Galtier, parce que il était là dans le groupe avec quand ils l'ont gagné. Ça, c'est l'aura du football français, et ça, à un moment donné, faut qu'on arrête de douter. Voilà, faut qu'on arrête de douter sur ces entraîneurs français qui marque un petit peu l'histoire du football.
On va en parler Galtier avec M. Bélanger.
Galtier fait quand même partie aujourd'hui d'un mec qui bosse, et on le voit à travers les performances de Neymar, on le voit à la performance de Ramos. Il sait prendre ses grands meneurs et en faire un groupe collectif avec tous les joueurs qui jouent autour.
Oui, mais viens. Alors
moi, sur Galtier, je suis d'accord avec tout le monde. Pour moi aussi, c'est un bon entraîneur, sûrement une bonne personne. Mais par exemple, sur un match comme hier, moi, j'ai envie de voir un Galtier faire quelque chose d'autre avant la 74e minute. Et moi, c'est un petit peu ça ce que je lui reproche. C'est que je trouve qu'il est très tardif pour agir, surtout dans un match comme ça.
Mais justement, c'est ça. Désolé de te couper. Viens, c'est ça. Moi, je pense que...
Coupe-le, et après, on va le recouper.
Non. Je pense que il est déjà adapté et il sait exactement ce qu'il fait. Mais je pense.
Mais tout à l'heure, t'as dit qu'il n'avait pas de coaching.
Non, attends, j'ai pas dit qu'il n'avait pas de coaching.
Alors,
il y a une expression qui dit, parler est un besoin, écouter est un art. Donc, il faut bien écouter. J'ai pas dit qu'il faisait pas de coaching. J'ai dit que c'est comme les échecs. Ça veut dire que faut pas juste pousser. Il faut les pousser au bon moment. Et Galtier, là, il est dans un moment où il peut pas faire de coaching parce que ses stars, elles l'admettent pas. Mais là, avec le temps, doucement, ça sera le moment de faire son coaching. Il est déjà adapté, mais c'est pas maintenant.
Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu dis, il peut pas faire son coaching. Il fait son coaching depuis le départ. Il fait son coaching. Ouais, tu le vois dans les performances de Messi. Tu vois dans les performances de Neymar. Tu prends Neymar hier, tu sens que il va là à un moment donné il marche sur un ballon qui perd, et 20 minutes après tu sens qu'il s'est fait bouger.
Pour moi, le coaching de
Galtier, tu le ressens dans les résultats, parce que les résultats, ils sont très très importants. Parce que quand tu dis Vivian, j'ai rien vu. Mais moi tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont été gagnés à l'extérieur.
Heureusement qu'ils ont gagné au Maccabi à Haïfa. On va pas descendre sur les Champs-Élysées pour une victoire au Maccabi.
On descend dans le 18e. On s'écoute.
Heureusement qu'ils ont gagné sur Maccabi à Haïfa. C'est une équipe qui joue la Ligue des Champions.
C'est une très bonne équipe.
Ils ont l'habitude des matchs de.
Mais comme j'ai dit, on va pas descendre sur les Champs-Élysées pour ça non plus.
Non, mais il a pas dit ça.
Là aujourd'hui, tu descends pas sur les Champs-Élysées. Mais moi je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance. C'est une équipe qui va monter en puissance. Et je pense qu'il y a des choses.
Mais Galtier, s'il perd en 8e, va se faire fracasser. Pas par nous, mais par les gens. En France, les gens vont pas lui laisser le temps. Malheureusement, c'est pas comme Bam Chabi au Barça, lui, il y a 2-3 ans.
Toi, ça, c'est le côté défaitiste français. On sous-estime toujours les équipes françaises. Moi, personnellement, Galtier, je le sous-estime.
Non, c'est un très bon coach.
Pour moi, le chef d'orchestre, c'est Galtier.
Ouais, mais c'est Galtier, un bon coach.
Ok, Boula. On écoute Lionel Bélanger.
Précédent entraîneur du PSG.
Mais ils n'ont pas gagné.
Qui étaient de grande notoriété, se sont fait sortir en 8e de finale.
C'est vrai.
De très grande notoriété.
C'est vrai.
C'est pas ça que j'appelais coaching. Alors, moi, le coaching dont je parlais, il y a plusieurs sens. Moi, c'est le sens.
Non, il n'y a pas plusieurs sens. C'est qu'un sens.
Si, quand tu changes pas de joueur.
Laisse-moi terminer, Boula, et après, on te laisse terminer toi aussi.
Quand tu mets un 11, le même, contre tout le temps, tu fais les mêmes joueurs contre Brest ou en Champions League et que tu fais pas tourner les joueurs parce qu'ils tournent pas, il y a que Vitinha qui tourne un peu, Hakimi, et une fois tous les milliards de temps, Nuno Mendes. C'est ça que j'appelle coaching, c'est-à-dire il fait pas rentrer les joueurs, il fait pas sortir de joueurs. C'est ce coaching, et c'est pas une critique. Je dis que c'est pas le moment de les faire, il faut attendre les faire après, sinon ça sera mal perçu.
Et va jouer quand par exemple?
Mais moi, alors, justement,
c'est vrai, un joueur comme ça, on peut le voir en parmi les temps,
par rapport aux joueurs,
il faudrait que ça arrive.
Merci Vivien.
Parce que quand tu parles d'équipier, c'est pas le coaching de Galtier. Il y a une gestion qui a été faite. On a voulu le mettre au PSG, le petit. Je pense que c'est pas sa place.
Le Paris Saint-Germain, c'est
pas. Moi, je pense qu'il peut rentrer 20 minutes en Ligue 1.
Moi, j'aurais préféré qu'ils achètent le joueur et qu'ils le laissent à Reims. Alors si tu parles d'équitiquer, si tu parles d'équitiquer,
ça c'est juste.
Concrètement,
si je peux,
Chekib. On va laisser parler tout le monde parce que Chekib là, au compteur, je crois que tu es déjà à 7 minutes. On n'a pas entendu Abdel et aussi l'invité, parce que l'invité quand même, on aimerait parler. On parle d'un entraîneur. Il a travaillé, il a fait des conférences sur ça et on laisse même pas la parole à Monsieur Bélanger quand même. On t'écoute. Non, on va revenir à Lionel.
Par rapport au coaching, il y a une chose qui est certaine, comme
à contenu le coaching, toi aussi.
Les grands clubs. En Ligue des Champions, déjà, tes stars, elles sortent très peu, voire elles sortent pas. Après, à tort ou à raison, mais tu sais très bien que la qualité des mecs devant, ils peuvent te changer le match à tout moment, même s'ils sont en difficulté. Après, pour ce qui est de la Ligue 1, c'est vrai qu'ils pourraient avoir un peu plus de turnover, mais tout à l'heure, Vivien, il disait que le PSG, c'est pas un centre de formation, mais il y a des joueurs qui ont besoin de s'adapter parce que le PSG aujourd'hui est un grand d'Europe. Ça veut dire que Naples, quand tu viens de Naples, de Valence ou même de Reims, t'as besoin aussi de prendre un petit peu de temps. Après, certes, tu prends l'expérience en jouant les matchs, mais tu la prends aussi aux entraînements quand tu t'entraînes avec de grands joueurs. Tu t'entraînes comme tu joues comme tu t'entraînes, ça c'est très important. Et après, je pense qu'il y a une conversation aussi entre les stars et le coach, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a des mecs qui ont besoin d'aller chercher une Coupe du Monde, d'arriver avec du rythme. Oui, et je pense qu'on peut pas leur couper l'herbe sous le pied.
Alors, Lionel.
Moi, je crois que sur le plan psychologique, si on regarde sur ce terrain-là, la force de Galtier, c'est qu'il a compris une chose. C'est quand il y a des forts égaux et quand il y a des stars dans une équipe, il ne faut pas que tu te les mettes à dos. Tu ne peux pas toucher à leur narcissisme, tu ne peux pas toucher à leur égo.
Merci de le rappeler.
Le deal que tu fais avec eux, c'est que tu mets ton égo au service du collectif.
Exactement.
Tu mets ton égo au service du collectif.
Vous l'avez d'accord.
Tous les coachs autoritaires qui veulent s'attaquer à l'égo du mec, ils se le foutent à dos.
Oui. C'est foutu. C'est un peu comme Henri à Monaco à l'époque,
c'est
non
c'est foutu, bien sûr.
Henri à Monaco, non il ne l'avait pas trop. Au contraire, Stigana, il l'avait pas trop.
Je travaille aussi à la Fédération de Handball. Tous les coachs le disent.
On a oublié de le mentionner.
Que ce soit Costantini, que ce soit Onesta, c'est des grands. Gueule, c'est des égos très forts, mais qu'est-ce qu'il obtient d'eux? Que ce soit au service du collectif, vous faites gagner l'équipe. Sous-entendu, ici, vous faites chier, mais vous faites gagner l'équipe.
Parce qu'il y a tellement de personnalités que tu peux c'est pas demander à ce qui te ressemble à toi. Bien donc, t'essayes de t'adapter un petit peu. Après, ça marche ou ça marche
les
pas.
Diminuer les mettre de côté, les calmer. Ouais.
Tu le ressens dans la qualité.
Merci, Lionel. Merci à vous aussi, les gars de Top Sport. On va marquer d'une courte pause avec Tariq. Les auditrices, les auditeurs, restent avec nous et on revient avec l'invité Lionel Bélanger et aussi Abdel et sa chronique. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, il n'y a pas que Bilal sur le plateau, il y a aussi Chekib avec ce magnifique maillot de la Squadra Azzurra. Il avait aussi Boulard. Mais oui, le rire quand même, Vivien, on a repris, on est en live. Arrête de faire rire l'invité, hein, on le rappelle, Lionel Bélanger avec nous.
On était en train de négocier une ou deux conférences et HEC avec l'invité. Et il nous a dit le tarif, j'ai eu peur moi, je me suis dit.
Vivien, tu vois Abdel, il est toujours là. Abdel, allez, avant sa chronique, on va parler avec l'invité plus amplement des coachs en France du football. Allez, c'est parti.
Time Sport. The special one.
Vous pouvez réagir hein, au 01 53 48 3000 sur l'antenne de Beurre FM. Rien de plus simple. Le réalisateur Tariq vous fait passer à l'antenne. On vous fait remporter un magnifique livre. Allez, déjà, le premier livre de Monsieur Bélanger, on le rappelle. Ils ont garé le bus devant le but et pourtant on a réussi à marquer. Voilà, aux éditions Sciences Humaines. Il est avec nous. C'est un féru. Il pue le football. Excusez-moi de l'expression proche du monde du foot. Gomme les frontières entre sport, société et culture pour partager son analyse et aussi sa passion du ballon rond. N'est-ce pas, Boula? Comme toi, il est féru de football. Il aime beaucoup. Lui aussi. Il visite les stades et aussi donne ses précieux conseils à tant de personnes. Hein. Je tiens à rappeler, c'est vrai, à pas mal de monde. Hein. Entre autres, il y avait eu aussi des gars comme Sabri Lamouchi, c'est ça? Ouais.
Oui, bah, tous ceux qui passent au BOB.
C'est ça.
J'y suis depuis 2005, donc depuis.
Guy Lacombe.
17 ans.
Michael Landreau. Entre autres aussi.
Oui.
Fabien Marcadal, Karim Mokedem, et encore. En tout cas, aujourd'hui, le monde de la formation va bien en France. Après le Covid, il est toujours là, faut faire attention. On le rappelle à l'antenne. Mais c'est vrai?
Bah, je crois que la formation. Alors, moi, je connais celle des coachs, les joueurs, c'est autre chose, hein, les centres de formation.
Des coachs.
Mais les coachs, la formation des coachs a une bonne réputation en France. On a fabriqué un certain nombre de coachs qui sont en Ligue 1 cette année, par exemple. Et quand on voit comment Franck Hez, par exemple, fait jouer son équipe à Lens, des garçons comme Bruno Irles, qui ont quand même le Régis Lebris qu'on a eu l'année dernière au BOPF, qui prend en charge pour la première fois Lorient cette année. Et ce sont des Julien Stéphan aussi, hein, qui maîtrise bien et qui, on voit. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses pour les coachs.
Alors,
c'est ceux qui mettent leurs pattes sur le jeu, c'est-à-dire tu sens que dans le jeu, il y a une influence qu'ils introduisent très très vite. Tout se joue, comme disait Guardiola, dans la période de préparation. Ils savent préparer leurs équipes. Tu reconnais leur équipe à la manière de jouer. Et ils ont une patte, ils ont un style, quoi, en quelque sorte. Et puis le deuxième volet, c'est le management et la communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est inséparable. Il n'y a rien à faire. C'est inséparable. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre.
Ouais.
Tu
ne
peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est les deux. Alors évidemment, quand on en cause avec eux, quand on travaille, par exemple, sur les conférences de presse ou des choses comme ça, ils te disent quand même, oui, c'est important, mais le plus important, c'est quand même de gagner le match. On leur dit oui, bien sûr que c'est gagner le match. Mais si tu fais des conneries derrière et si ça ne marche pas, en termes de communication, de management, avec les joueurs, avec les dirigeants, attention aux coachs qui se fâchent avec les dirigeants.
C'est vrai.
C'est terrible, ça. Problème de gouvernance, c'est terrible. Ça a des impacts sur l'équipe, parce que les joueurs s'en aperçoivent, le savent. C'est ce qui s'est passé à Lille, par exemple. Quand il y a des Galtier est parti de Lille, hein, pour les raisons, on les connaît. C'est problème de gouvernance.
Ouais.
Pas d'accord avec la direction. Les joueurs le savent. Derrière, ça manipule. Il y a des tensions.
Toujours.
Etc. Et c'est très mauvais. Bon, le vestiaire, l'interne, c'est vraiment quelque chose de fort. Bon, et puis ce que je dirais simplement sur le caractère très inédit de cette année.
Alors,
la saison est coupée en deux. C'est quasiment deux saisons. Une première saison de 15 matchs, une coupure d'un mois et demi. Je crains là que ces deux saisons, ça soit une propension à inciter les dirigeants à se séparer, à faire du ménage sur les bancs à la fin de la première branche. Là, hein. Parce qu'ils vont avoir un mois et demi. Alors, ceux qui vont être en danger, ce sont ceux qui vont être dans les derniers, qui vont manquer de points. Bon, là, on craint la relégation. Et puis, ceux de la première partie de tableau qui sont en dessous des objectifs. Il peut y avoir du ménage à la fois dans le haut de tableau, ce qui va un petit peu surprendre, parce que si un entraîneur qui est septième se fait virer, c'est pas très sympa quand même, mais ça veut dire qu'il sera pas dans les objectifs, plus les derniers dans la charrette. Parce que les dirigeants vont prendre peur, ils vont s'affoler, il y a une pression des supporters aujourd'hui très forte, ils s'affolent et puis ils virent. Et on en parlait tout à l'heure, je crois, en aparté, toutes les statistiques indiquent que les changements d'entraîneurs, majoritairement, n'ont absolument pas d'effet.
Comme les équipes reléguées cette saison, la saison dernière plutôt.
Oui. Alors par exemple, la saison dernière, sur les trois clubs qui sont
descendus en Ligue 1, Bordeaux, Saint-Étienne, Metz.
Sur trois ont changé d'entraîneur dans l'année.
Pas faux.
Deux sur trois.
Oui, mais bien.
Bon,
mais
des entraîneurs d'équipes, par exemple, comme Lorient ou comme Clermont, l'année dernière, qui ont eu des grosses difficultés l'année dernière, ils n'ont pas viré leur coach, ils sont restés en Ligue 1. Pascal Gastien et Christophe Pellissier. Ils sont restés en Ligue 1.
Moi, quand vous parlez de... ce qui est marrant, c'est quand vous parlez des coachs. Déjà, au niveau de la formation des coachs, ils ont poussé le côté intellectuel du football. Aujourd'hui, quand tu regardes, quand les coachs passent les diplômes, quand les coachs passent les diplômes, à un moment donné, tu as des anciens joueurs qui n'ont pas une scolarité à leur image de joueurs et de professionnalistes qu'ils ont eu dans le football. Et aujourd'hui, il y a un gros problème là-dessus. Et quand vous parlez de Sabri Lamouchi, tu sens que c'est des coachs qui connaissent bien le milieu du foot. Gérard Houllier, quand il était coach, c'était que du football athlétique, de la masse athlétique. Moi, j'ai connu des Bernard Lacombe, j'ai connu des Guy Lacombe, j'ai connu des entraîneurs qui savaient faire jouer les équipes. La preuve, des joueurs comme Zidane, des joueurs comme Patrick Vieira, où à un moment donné, il y avait cette fibre coach. Mais le problème, cette fibre coach, à un moment donné, on a formé des coachs athlétiques. Et le problème du football français, surtout avec le plus grand réservoir du monde au niveau du football, je pense qu'on n'a pas les coachs en conséquence de la qualité des joueurs qu'on a en France. Et ça, que je pense que vous connaissez bien le sujet, c'est bien que vous en parlez, mais il y a des coachs qui ont un handicap, qui ont les compétences pour aller là-haut. T'as même le coach de Versailles aujourd'hui qui est en national.
Ils font du bon boulot, Versailles.
Qui est premier en national et qui a des qualités pour emmener peut-être son club en D2. Et à un moment donné, faut pas oublier ces phénomènes de coach qui ont des qualités et qui ont peut-être pas le côté intellectuel. Dans l'arbitrage, on le voit, c'est le côté intellectuel qui prime par rapport à un poste d'arbitre ou un poste de coach. Et que tu prends Delionis quand à un moment donné, Delionis, quand il a passé ses trucs de coach, il était incapable au niveau théorique.
Alors,
pour poursuivre
la réaction avec monsieur Bélanger. Intéressant, Boula, vraiment. Allez, Abdel, avec Lionel, notre invité ce soir.
À travers le titre qui ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer. Qu'est-ce que il faut retenir comme message? Est-ce que c'est plutôt prôner le jeu et que ceux qui sont un petit peu plus défensif, c'est pas forcément la bonne méthode. Quel message vous voulez faire ressortir à travers ce titre?
Je crois que j'ai voulu respecter le fait que moi, étant spécialiste au management de communication, que prioritairement quand même, c'est le jeu. La première chose, c'est le jeu.
C'est bien. Parce
c'est
que
le jeu.
Un doigt,
c'est le jeu. Et l'idée du bus devant le but, il y a eu 33 témoignages. Hein. Je les ai interrogés au téléphone, pour la plupart, en leur demandant, voilà, quand une équipe joue bloc bas, met l'autobus devant le but, globalement, comment tu vois ça et qu'est-ce que tu fais? Et je les avais pas prévenus. J'en ai interrogé 33. Et je me suis dit, alors au début, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, ils vont sûrement me dire à peu près pareil, tout ça, etc. J'ai vu très, très vite qu'il y avait des différences. Alors certains grossissant les difficultés, d'autres disant non, c'est rien, c'est facile à contourner, tout ça, etc. Et j'ai été étonné de la variété. Et c'est là, quand tu les entends quand même, que tu vois, bon, Christophe est dedans, par exemple, hein, vous pouvez lire son texte, sa manière de présenter les choses. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est du Guardiola, c'est-à-dire c'est le rôle, c'est l'ingénieur qui anticipe, qui regarde. Guardiola, il est obsédé par l'équipe adverse, absolument obsédé par l'équipe adverse. Il considère le jeu comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire t'avances tes pions et t'es pas fidèle à ce que t'as fait, mais tout dépend de l'adaptation à ce qui se passe en face. Deschamps le fait un peu, un petit peu, mais pas autant que certains.
Il a essayé de le faire, mais en championnat d'Europe, alors, ça n'a pas payé.
Et ça n'a pas marché.
Ouais.
Et
juste,
ça n'a pas payé.
Pour compléter ce que vous dites, là vous avez eu l'avis de ceux qui contournent un petit peu ce genre de bloc, mais pour ceux pour qui c'est devenu une force, c'est quoi votre avis de, par exemple, de pas garer le bus mais de jouer bloc bas? Il y en a pour qui c'est devenu une force et c'est leur manière de faire. Est-ce que vous avez, c'est quoi votre avis sur ça, vu que quand même de base vous êtes quelqu'un qui prônait le jeu?
Moi, je pense que nous, ce qu'on dit dans le domaine de la stratégie et au-delà du football, dans la vie en général, les grands stratèges, ce sont des gens qui, quand on est dans un rapport de force défavorable, retournent la situation. Le talent absolu stratégique, c'est le cas dans des domaines graves comme la guerre d'ailleurs, les grands militaires qui ont marqué l'histoire, c'est pas les gens les plus forts qui, au départ, ont tout ce qu'il faut pour écraser l'adversaire, mais c'est ceux qui, comme on dit, avec presque rien, arrivent à faire des merveilles. Bon, c'est le cas des coachs et des entraîneurs qui arrivent à optimiser.
Mais c'est ce qui est un truc qui est bien. Il y a un truc qui est bien, c'est quand vous dites. Mais c'est ça qui est bien, c'est quand vous parlez de jeu, vous parlez de Guardiola, vous parlez de Gastien. Gastien, c'est pareil. C'est des mecs. On les connaît pas, mais ils sont très très forts dans la qualité du jeu. Il arrive à ressortir. Il arrive à ressortir un jeu offensif. Qui a des coachs. Après, c'est vrai que, comme vous dites, même à Lille, tu prends le président de Lille, tu prends un mec comme Gouvenec, je pense qu'il ne méritait pas d'être viré. Pourquoi il est viré? C'est parce que l'autre, il fait du business, l'autre, il gère son club comme s'il gérait une société de business d'argent, de montage. Après, tu as des coachs qui sont là. Il y a un truc qui est bien, c'est que dans votre philosophie, vous aimez le jeu. Et aujourd'hui, tu prends Guardiola, il perd la Ligue des Champions contre Chelsea, mais il perd la Ligue des Champions. Pour moi, il la perd pas. Il nous donne un spectacle, et ce spectacle au niveau football, déjà nous c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Tout ce qui est technicien ou entraîneur ou le supporter ou le public, il cherche vraiment une qualité de jeu qui nous fait du spectacle, pas à 10 derrière où on l'attend. Je veux dire, c'est la gagne. Après, t'as le spectacle.
Alors, Vivien, il y a aussi Jacques Eba. À la réaction.
Ils ont tous fait leurs 7 minutes.
Bien sûr. Mais bien sûr, tu peux. Ah, il a retenu les 7 minutes.
Il te reste que 30 secondes, du coup.
Vas-y, Jacques, tu peux parler.
C'est très important. Le management, c'est très important pour moi parce que c'est ce qui fait la différence entre l'entraîneur et le coach. Il donne une autre envergure. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, le terrain, c'est quand même en bout de chaîne. C'est le résultat de plein de choses qui ont été faites en amont. Et c'est vrai que pour tenir un gros, gros club, et même un petit, quand c'est, on a une ambition importante, il faut être un bon manager parce que c'est pas que des joueurs, c'est des humains. Que ce soit des enfants ou des adultes, il faut savoir les gérer si on veut vraiment marquer le joueur à vie et si on veut un résultat et des victoires pérennes. Voilà.
Vivien, Alors, monsieur Bélanger,
est-ce que vous voulez répondre à Gérard ou
j'ai réagir? Oui, un chèque non.
Tout à fait d'accord.
Il est d'accord.
Tout à fait d'accord. Et je crois vraiment que le métier de coach aujourd'hui en Ligue 1, en Ligue 2 et même en National, c'est vraiment ceux qui s'investissent, c'est travailler, c'est ce qui se passe à l'entraînement. Le match, c'est le résultat de la semaine, quoi. Quand on voit par exemple l'importance des coups de pied arrêtés, ils vont chercher des ressources aujourd'hui, mais tu peux augmenter ton efficacité de 50% si tu travailles. De 50% si tu travailles. Bon, je suis un petit peu sévère, il y en a qui foutent rien.
Oui.
Mais il y en a qui foutent rien.
France 98, quand tu les vois sur le terrain, que ça soit Dessailly, que ça soit Thuram, que ça soit Zidane, ou même dans les coups francs, à l'entraînement, tu les voyais. Mais c'est vrai ce que vous dites en plus.
Ouais,
mais ça chez nous, c'est vrai qu'on bosse pas comme les Allemands, qu'on bosse pas. Et c'est vrai qu'on a un manque de travail. Et aujourd'hui, tu as même des jeunes au PSG. Adé, il peut t'en parler.
Ouais,
tu vois le potentiel de ces jeunes. Je pense qu'on les mettra, on les mettra en avant, mais avec une grosse charge de travail. Et c'est vrai que, et c'est quand vous dites qu'ils sont à 50%, je les vois.
Et c'est là que.
Il est d'accord, l'invité. Lionel, on vous écoute.
La personnalité de l'entraîneur joue. Par exemple, j'avais eu une discussion très importante avec Jocelyn Gourvennec, justement au BEPF, parce que je râlais, je rouspétais contre des problèmes d'efficacité, et notamment dans les frappes face au but. Tu vois quand même des mecs qui visent le haut de la tribune, quand même. C'est pas possible, quand même. C'est 15-20 mètres au-dessus, ça rase pas la barre. Bon, ils ont 27 ans. Jocelyn me disait, oui, t'as raison, tout ça, etc. J'ai dit, est-ce que vous faites des gammes comme un musicien, des routines, etc. Il me disait, mais un mec de 27 ans qui est pro, tu le remets pas au boulot, tu le fais pas tirer des trucs, etc.
Ouais.
Pourtant, c'est le secret des plus grands.
C'est
grand,
la merde.
Pourquoi Juninho, il a marqué tant de buts, mais c'est celui qui a tiré le coup franc.
Exactement.
C'est assez grave de penser comme ça.
Pourquoi Papin, il était brillant sur des reprises de volée? Il faisait une heure de plus deux fois la semaine.
Exactement.
Uniquement faire des reprises de volée.
Karim Ziani,
je le voyais à l'entraînement en équipe d'Algérie, je le voyais, je le vois frapper. Je dis, mais Karim, depuis quand tu frappes? Il me dit, boula, en Allemagne, on fait que ça.
Bien sûr.
Travail de frappe. C'est pour ça qu'en Allemagne, ils n'ont pas la culture de la frappe.
Dans l'origine, et c'est, à mon avis, c'est le succès mondial d'ailleurs du football. Le football est un sport dans lequel, c'est pas vrai dans tous les sports, il y a à la fois de l'inspiration et de l'exécution. C'est un sport d'inspiration, le jeu, l'inspiration, qu'on peut parler créativité, mais aussi d'exécution.
Oui, l'inné,
là. Des sports, par exemple, comme le volleyball, c'est des sports d'exécution. Le tennis, par certains côtés, c'est un sport d'exécution. C'est du répétitif absolu, absolu. Alors, il y a pire que ça. Il y a les sauteurs à la perche, etc.
Ouais.
Ce sont des méthodiques obsessionnelles, maniaco-dépressives, lourds, les mecs. Hein. Ils sont tous malades un jour. Hein. Parce que c'est un truc de fou, la natation, c'est un truc de dingue. Il y a une pathologie lourde.
Synchroniser encore plus.
C'est complètement dingue.
Synchroniser comme
les gosses. Le rugby, le football,
Lionel.
Ce sont des sports d'inspiration. Mais il y a de l'exécution. C'est pas possible de voir des frappes aussi mauvaises que ça.
Grand merci, Lionel Bélanger. Eh oui, on arrive à la fin de cette seconde partie. On le rappelle, Lionel Bélanger, justement, préfacé avec Gérard Rouillet, hein, que l'illustre Gérard Rouillet, ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Voilà, ça, c'est un magnifique ouvrage à vous offrir, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Il y a des matchs, je crois, rapidement, Abdel, si on peut les donner. Je crois que c'est 3-0 Karabakh face aux Canaries. Ouais, ouais.
C'est 3-0 toujours. Kim, et Monaco.
Pas être heureux.
Qui perd 1-0 à domicile contre Ferencvaros.
Voilà. Et aussi, on a les Rennais.
C'est la fin du match. Là.
21h, les Rennais. C'est bien ça. Hein. Ouais. Voilà. C'est... Vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec Abdel et aussi toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie, 20h41, toujours en compagnie de Vivien, Cheikh Bella, Abdel aussi, sans oublier Boula, et notre invité, on le rappelle, Lionel Bélanger avec son magnifique livre, Quand vous fait remporter, chers auditeurs et auditrices. Ils ont garé le bus devant le but et pourtant on a réussi à marquer aux éditions Science Humaine. Allez, cette fois-ci, place à Abdel, on y va.
Time Sport. La formation d'Abdel.
Alors Abdel.
Ouais, donc c'est le deuxième épisode là du coup des jeunes pépites qu'on a pu voir. Je vais vous présenter Ilyes Housni qui joue au Paris Saint-Germain, attaquant de pointe né en 2005. Il a plusieurs caractéristiques. Déjà c'est un attaquant, on va dire, pas complet, mais qui est très intéressant, notamment dans sa variété de jeu. C'est quelqu'un qui décroche beaucoup, qui vient beaucoup participer au jeu. Donc ça, c'est important. Ça ramène un vrai lien au milieu de terrain avec toute la qualité des joueurs qu'il y a au PSG. Son autre faculté, c'est notamment dans les appels de balles. C'est quelqu'un qui prend énormément la profondeur, qui fait des appels tranchants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une de ses caractéristiques principales. En plus de ça, on dit souvent que certaines personnes ne sont pas là, sont là au mauvais moment. Et lui, il est toujours là au bon moment, notamment dans la surface de réparation, parce que ses déplacements sont vraiment intéressants dans la surface de réparation. C'est quelqu'un qui a vraiment un flair, qui a vraiment qui est vraiment un renard des surfaces, même si il doit encore se perfectionner, être peut-être beaucoup plus efficace devant le but. Ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est que c'est quelqu'un de très simple dans son jeu, qui ne se prend pas la tête avec des fioritures à essayer de faire des gestes de compliqués. Quand il faut faire la passe, il fait la passe. Quand il faut dribbler, il faut dribbler. Mais c'est quelqu'un en plus de ça qui est altruiste, donc il aime bien faire marquer les autres. Il a pas besoin d'être la star, on va dire, de l'équipe. Donc c'est quelque chose qui est pas mal du tout dans un club comme le PSG, chez des jeunes aussi, où il y a pas mal d'ego. Il faut pas croire que ça se produit que chez les professionnels. Quelque chose d'autre, c'est on dit souvent que le premier défenseur, c'est ton attaquant. Lui, l'expression, elle lui colle à la peau. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des efforts. Il enchaîne, il répète. Dès que le ballon est perdu, les contre-efforts sont faits et il amène vraiment cette aide à ses coéquipiers. En plus de ça, il est doté d'une très bonne accélération à dissocier de la vitesse pure. C'est quelqu'un, quand il est lancé, qui peut aller très vite et qui peut laisser pas mal de défenseurs dans son dos. Donc voilà, il a la possibilité aussi de jouer avec la sélection française et la sélection marocaine. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et voilà, il a déjà inscrit 3 buts en 2 matchs de Youth League. Donc voilà, c'est un joueur qui est important à suivre. Ilyes Housni, on le rappelle. Donc voilà, je vous invite à aller le découvrir prochainement.
C'est un Romario.
Voilà, tout simplement. C'est Boula qui nous le dit. C'est bien ça. Et c'est bien, peut-être Chekib qui ne connaissait pas.
Si je peux dire une dernière phrase. Voilà, on essaye toujours un peu de comparer, mais à valeur égale. C'est quelqu'un qui fait des appels de balles, qui rappelle un peu Cavani. Déjà, il a un peu la même chevelure. Et après, quand il vient décrocher, c'est un peu à l'instar d'un Benzema. Et ce que j'ai oublié de souligner, c'est que il joue à l'instinct. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit pas de temps en temps, qui est capable de gestes acrobatiques, de gestes techniques comme ça, qui est impressionnant. Et c'est pour ce genre de joueur qu'on va voir les matchs, notamment chez les jeunes.
Par contre, je parlais de ce petit, parce que bon, c'est vrai que ce qu'il a dit à Adèle, moi je l'ai vu à 400 reprises au niveau de sa façon de jouer. Moi, ce qui me fait peur et ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il tombe vraiment sur un vrai coach qui adore le jeu, parce que c'est quelqu'un de très très intelligent dans les déplacements. Il arrive à lire tout, il anticipe sur tout. Même en tant que finisseur, il a mis pas mal de buts. Et c'est vraiment, comme dit Adèle, c'est vraiment un joueur. Pour moi, c'est une petite pépite qui est à Paris. Et j'espère qu'il arrivera à trouver le club qui convient à son talent.
Est-ce qu'il doit partir à l'étranger pour se révéler, peut-être?
Moi, personnellement, je le verrais bien en Espagne.
Ouais. En Espagne. Pour le moment, son contrat, il se termine en 2023. Mais voilà, il n'y a pas encore de pourparlers.
Il a joué la Youth League.
Il a déjà mis 3 buts en 2 matchs. Même en championnat U19, il est présent. Donc voilà, c'est vraiment un bon joueur.
Ouais. Et son agent, c'est Sami Gafoun.
Les deux clubs français ont perdu ce soir. Les Nantais, les Monégasques. On attend 21h. Rennes, Fenerbahçe. On a Yacine, notre consultant, qui est du côté du Horizon Park ce soir. 21h justement dans cette Europa League. Les phases de groupe, la deuxième journée, monsieur Bélanger. Rien ne va plus. Encore une fois, on la joue pas à fond. Peut-être encore cette seconde coupe européenne, si je peux me permettre, après la Champions League.
Malheureusement, ça, c'est une tendance. Hein. Ça, c'est sûr que la confrontation avec des clubs qu'on pourrait dire de niveau moyen européen, on a du mal. On a du mal. Les clubs français ont du mal.
Moi, je pense qu'on n'a pas du mal. Je pense qu'à mon avis, c'est au niveau de l'effectif. À un moment donné, dans l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ils ont un effectif de 22, 23 joueurs
qui peuvent vraiment assurer. Et quand tu mets les mecs au repos, tu fais mettre les remplaçants, bah tu te retrouves dans une situation parce que c'est pas des remplaçants de talent. Ouais. Là, c'est pas des remplaçants de talent. Ouais. Et aujourd'hui, l'entraîneur, à un moment donné, il repose ses mecs pour le championnat. Après, faut te mettre aussi à la place de l'entraîneur. Il a peut-être pas aussi l'effectif pour faire
C'est exactement ça. Justement, ils n'ont pas, de profondeur de banc. Ouais. Ils n'ont pas assez d'effectifs. Ce qui bien résume le fait que globalement, les clubs français sont pas encore prêts. Ils n'ont pas encore le niveau même de l'Europa League. Je l'avais dit pour Marseille au début, parce que aujourd'hui tout le monde dit ouais, Marseille n'a pas le niveau, etc., etc. Mais c'est normal, parce que quand quelqu'un il a 20, il a déjà les résultats. Non, là, moi c'était avant les matchs de Marseille où je disais qu'il n'avait pas le niveau et les gens disaient ah, c'est un supporter de Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est le consultant qui parle.
Ouais,
et les clubs français doivent se reprendre pour atteindre le niveau parce que oui, on va se faire passer devant par le Portugal et peut-être par d'autres pays. Aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain, même l'Ajax, je pense qu'il battrait tout le monde. Le Sporting, il battrait tout le monde. Benfica, ça va être très intéressant de voir le prochain match de Benfica et tout. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien que les clubs français se reprennent pour qu'on puisse encore parler de 5 grands championnats et que la France fasse toujours partie des 5 grands championnats. Sinon, ça va passer
à
Là, c'est parce que les résultats ils sont un petit peu en défaveur ce soir. La semaine dernière, on en a parlé, les résultats ils ont été plutôt positifs. La semaine dernière, vous aviez la même réaction autour du plateau. On était un peu tempéré parce qu'on était trois JT là du fait que on voit les clubs français perdre. On dit, je l'avais dit et tout. Je pense que il faut laisser le temps et il faut faire étape par étape. On parlait déjà de huitième de finale, de quart, de demi, alors qu'on n'est même pas au deuxième match de poule et que toutes les équipes n'ont pas joué mis à part Rennes. Mais je pense que il faut prendre le temps. Après, voilà, c'est des gestions, faut voir. Je pense pas que forcément les équipes qui ont investi, Rennes, je rappelle, Nice, c'est des équipes quand même qui ont mis de l'argent, à part Nantes qui est un peu léger. Je trouve que peut-être c'est juste le turnover qui est mal fait, mais je pense pas que la profondeur ce soit la cause principale des défaites. Il y a juste un moment, je pense, un petit peu d'envie et des joueurs qui ont peut-être pas envie de jouer ces matchs-là. Donc je pense qu'il faut être tempéré, mesuré. Après, la vie de chacun est respectable, bien sûr, mais je pense qu'il faut pas être non plus trop alarmé.
Moi, je pense que le temps, les résultats vont nous le dire.
Allez, les résultats vont nous le dire.
En termes de
dynamique, avant de parler de l'équipe de France. La fin de cette émission.
Déjà, les clubs français prennent de plus en plus au sérieux l'Europa League et les coupes en dessous, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc,
c'est un progrès. Ça.
C'est un vrai progrès, je trouve.
À un moment donné, les coachs disaient bon.
Exactement. Le jeudi, ça nous embête,
je les
etc.
Je voulais dire à Clairefontaine, le championnat, c'est mon gagne-pain.
Exactement.
C'est ça. Mais carrément, hein, c'est mon gagne-pain.
Ouais.
C'est-à-dire que il vaut mieux pas être relégable que d'avoir atteint la huitième de finale ou le 16e de finale.
Alors justement.
Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier.
C'est quoi qu'il faut pas oublier ? Parce que là, on allait oublier quelque chose.
De l'UEFA, tout ça. Quand tu regardes la coupe des confédérations, ils leur mettent trop de trucs dans les clubs. Et à un moment donné, dans le repos, c'est quand même un peu exagéré.
Globalement, les périodes en France, les périodes à 3 matchs la semaine, les équipes françaises ont du mal. Hein, dans les périodes à 3 matchs.
Ouais. Mais ça, c'est le changement des conférences.
Alors, on parlait de banc, de profondeur de banc.
Ouais.
Alors, si tu interroges les coachs, quand des coachs français, par exemple, ont 16-18 joueurs avec un assez homogène, avec un certain talent, ils ont un mal de chien à gérer parce que ceux que tu fais pas jouer, qui pourtant ont un niveau élevé, tu les perds. Alors que quand tu vois les bancs en Italie ou en Angleterre, t'as des sacrés joueurs sur le banc. Hein.
Monsieur Bélanger, là on a perdu une très grande personnalité du monde du sport. Il a annoncé sa retraite dans l'après-midi.
La reine d'Angleterre ?
Non, pas la reine d'Angleterre. Oh, quand même un peu de respect à la reine d'Angleterre. Tu vas pas faire une Yacine toi aussi. Roger Federer. Et Nadal qui pose comme ça en conférence de presse et qui nous dit « J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais, justement. » Ah, c'est fou. Il part donc. Il laisse 22 titres du Grand Chelem.
20.
Si c'est ça.
22.
20.
20.
22. 21.
21.
20.
20 Federer.
Federer.
21 Djokovic et 22
Nadal. Excusez-moi. C'est bien ça.
Enfin, c'est la reconnaissance et la dimension humaine. C'est des grands champions, ces gens-là. Quoi. Non, ils ont une reconnaissance entre eux.
Surtout, surtout Federer, au niveau mentalité, tu sens.
Alors, l'Helvète.
Après, il est entouré, il a sa famille, Federer, tout ça. Il n'est pas omnubilé par tout l'extérieur. Et ce qui est bien dans Federer, c'est qu'il a ses valeurs familiales et qu'il l'a rendu costaud. C'est après un moment donné, c'est pas ses amis qui l'ont rendu costaud, parce qu'une fois il a fait des interviews sur vous inquiétez pas, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Et finalement, cette relation qu'il a avec sa famille, ça l'a rendu en haut.
Et aussi, Federer, pour beaucoup, c'est monsieur tennis. Ça veut dire qu'il y a les champions, mais pour certains, c'est la personne qui symbolise le plus ce sport. Ça veut dire, bien sûr, comme il dit, l'idole, Nadal, c'est une idole, Djokovic, etc. Mais Federer, c'est le symbole aujourd'hui du tennis pour beaucoup
de gens. Ça a été un jour. Ça a été un joueur complet.
C'est la durée, la légitimité, c'est la durée.
Ouais. Ouais,
c'est le problème aujourd'hui du tennis français, où tu sens que dans leur image, ces joueurs-là, ils ont pas l'aura de ces grands champions.
Enfin, et tu prends des mecs comme tennis français a dû jouer ces trois monstres pendant 10 ans.
Quel
mon fils qui a un talent de fou.
Oui.
Et tu sens que
il a fait un quart et une.
Et le même cerveau que le mec.
Oui, mais il a moins de beaucoup de tennismen français ont moins de talent. Par exemple, son gars, son service, il est très moyen. Son gars, par exemple, fait une énorme carrière par rapport à son talent.
Son gars,
il fait une énorme carrière par rapport à son talent.
Son gars, il a tiré le maximum de sa carrière.
Il y a peut-être Gasquet, mon fils.
Moins de talent et il a été jusqu'à à nous faire plaisir sur un cours de tennis.
Abdel, on poursuit rapidement.
Non, rappelle juste quelques stats. Il a gagné 8 fois Wimbledon, 10 finales de Grand Chelem consécutives.
Ouais,
il est resté 247 semaines de suite à la place de numéro 1 mondial.
Aussi, Abdel.
C'est la série la plus longue en cours.
Ouais.
Joueur le plus titré de l'histoire sur gazon et deuxième joueur le plus titré de l'histoire avec 103 titres derrière Connors et 109 titres.
Un grand merci Abdel, chez Kib aussi, sans oublier Boula.
Et aussi, un truc qui est bien, c'est que tous les sportifs du monde, par rapport à la gestion de la carrière
Boula.
De Federer, il devrait prendre exemple.
Un grand merci à notre invité, on le rappelle, ce soir on était avec Lionel Bellanger, avec son magnifique livre, avec en préface de Gérard Rouillet, on le rappelle le titre, ils ont garé le bus devant le but et pourtant on a réussi à marquer aux éditions Sciences Humaines. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive 21h, 23h.
Vanessa la Federer de Beurre FM.
Tarek. Voilà, c'est ça si tu veux.
Oui, bien sûr.
Ouais, le grand amoureux de l'émission de Vanessa, c'est Vivien de Tamsport. Bye bye et à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.